Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles, sans surprise, à Romains 8. On avance. On va lire un gros morceau aujourd'hui. Très gros morceau. Romains 8, on va lire les versets 16 à 39. L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu et donc nous sommes aussi ses héritiers. Oui, héritiers de Dieu et héritiers avec le Christ. Si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. La création tout entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants. Car la création est tombée sous le pouvoir des forces qui ne mènent à rien. Non pas qu'elle ne l'ait voulu elle-même, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, il y a une espérance, c'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage, et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous savons en effet que, maintenant encore, la création entière gémit et souffre comme une femme qui accouche. Elle le fait en solidarité avec nous, car ce n'est pas seulement la création qui souffre, nous qui déjà avons l'Esprit Saint, comme la première part des dons que Dieu a promis, nous gémissons aussi intérieurement en attendant que Dieu fasse de nous ses enfants et qu'il délivre nos corps de leurs souffrances. Car nous avons été sauvés, mais en espérance seulement. Si l'on voit ce que l'on espère, eh bien, on ne l'espère plus. Qui donc espérerait encore ce qu'il voit ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons cependant avec persévérance. L'Esprit de Dieu lui-même prie en notre faveur avec des gémissements qu'aucune parole n'est capable d'exprimer. Et Dieu, qui voit dans les cœurs, comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit prie en faveur des croyants, comme Dieu le désire. Nous savons que toute chose contribue au bien de celles et ceux qui aiment Dieu, et qu'il a appelé selon son projet, car Dieu les a choisis d'avance. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères et sœurs. Celles et ceux pour qui Dieu a pris d'avance cette décision, il les a aussi appelés. Celles et ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes. Celles et ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné part à sa gloire. Que dirons-nous de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous fera-t-il pas totalement grâce avec son Fils ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? Personne. C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera alors ? Personne, car Christ est mort, et plus encore, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il prie en notre faveur. Mais qui nous séparera alors de l'amour de Christ ? Est-ce que ce sera la détresse, ou l'angoisse, ou la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort ? Comme le déclare l'Écriture, « À cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. On nous traite comme des moutons qu'on mène à l'abattoir. » Et en tout cela, nous remportons la victoire la plus complète par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Bon, je vais prêcher 3 fois sur ce passage, au moins. Mais je trouvais intéressant de le lire d'une traite, parce que c'est, en termes d'idée de Paul, c'est un bloc. C'est un bloc. Alors je crois que c'est bien de le recevoir comme un bloc aussi. Bon, on avait vu que Paul avait cherché à convaincre les chrétiens de Rome qu'ils étaient des nouvelles créatures, une nouvelle humanité tirée de Jésus lui-même. Et à cause de cela, il les encourageait à vivre pour cette nouvelle réalité, plutôt que l'ancienne. Mais il y a un mais, un gros mais, et il le dit sans le cacher. Je relis. Alors l'Esprit de Dieu atteste que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous sommes enfants de Dieu, héritiers, co-héritiers de Christ. Et si nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui. Voilà. Nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui. Accrochés à la formidable destinée d'être des enfants de Dieu, d'être des héritiers de Christ, se trouve la certitude de souffrir. Et je parle de certitude. Mais aussitôt après avoir affirmé, voilà, nous souffrirons avec lui, Paul, tout de suite, veut contrebalancer cette certitude négative avec tout ce discours qu'on a lu là, dans lequel il y a 3 grandes espérances et 1 grande certitude. La première des espérances qu'on va voir ce matin, c'est que la vie éternelle n'est pas un lot de consolation. La deuxième, c'est que l'Esprit de Dieu œuvre de façon invisible en nous, en notre faveur. La troisième, c'est que dès lors que vous êtes chrétien, toutes choses, parce que vous êtes unis à Christ, toutes choses vont participer à votre sanctification, que vous le vouliez ou non. Et enfin, la quatrième chose, qui est la grande certitude, il nous dit à la fin, rien de ce qui existe dans le cosmos ne peut vous séparer de l'amour que Dieu a pour vous. Rien dans tout ce qui existe ou tout ce qui existera ne peut faire obstacle, écran, entre l'amour, entre Dieu qui veut vous aimer. Pas entre vous qui vouliez aimer Dieu, entre Dieu qui veut vous aimer. Donc ça, c'est le programme de nos prédications à venir. Aujourd'hui, on va commencer par la première. Mais d'abord, Paul parle de souffrance. De quelle souffrance parle-t-il? Il y a 2 formes de souffrance, pour être très grossier. Il y a celle que nous partageons avec toute l'humanité. Toute l'humanité souffre. Et nous, chrétiens, on est complètement solidaires de cela. On n'est épargné en rien des souffrances que l'humanité traverse. Solidaire en humanité. Il existe une autre forme de souffrance aussi, qui est pour le coup complètement liée au fait d'être chrétien, de vivre en décalage avec ce monde, de subir du mépris, du rejet, voire d'être attaqué violemment, persécuté pour notre foi de manière officielle, comme dans certains pays, ou de manière insidieuse. Cependant, ces 2 sources de souffrance peuvent tout à fait pour nous être un obstacle à notre foi. La mort d'un être cher, une opposition dans la société dans laquelle nous vivons, peuvent nous faire douter et nous tenter de renoncer à suivre Jésus. Voilà les souffrances. Ayant dit ça, le passage que nous lisons ce matin, dans la tête de Paul, je crois, au moment où il est pris, concerne plus les persécutions que la solidarité qu'on peut avoir. Le passage à la fin dit « À cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. On nous traite comme des moutons qu'on mène à l'abattoir. » Ça, c'est plutôt quelque chose qui évoque la persécution. Alors nous sommes dans un monde rempli de péchés, et dans ce monde nous sommes appelés à être des témoins du royaume à venir, à vivre maintenant comme si déjà l'éternité avait commencé. Mais autour de nous, on va trouver du mensonge, de la triche, de la manipulation, de la violence, de l'égoïsme, du clanisme, bon, tout un tas de choses réprouvées par Dieu. Et nous sommes appelés à être comme un roc dans un torrent, à tenir à contre-courant, à ne pas vivre selon ces valeurs-là. Mais mieux encore, ou pire encore, je ne sais pas, à répondre au mal par le bien. Ça veut dire que nous sommes appelés non pas simplement à ne pas rajouter du mal dans ce monde, ce qui est déjà en soi n'est pas facile, mais en plus à y diffuser du bien quand bien même nous recevrions du mal. Cela a une conséquence où Paul dit on nous traite comme des moutons qu'on mène à l'abattoir. C'est qu'en fait le chrétien il triomphe pas forcément dans ce monde-là, au sens du monde. On ne prospère pas. Parce que la justice, la miséricorde, le pardon, la bienveillance, la charité sont parfois, peut-être souvent, méprisés, instrumentalisés, retournés contre nous. Et nous pouvons avoir souvent le sentiment de perdre, d'être des losers, d'être battus. Vivre ici et maintenant selon le royaume ne nous garantit pas la paix, la sécurité et la reconnaissance. Nos jeunes souffrent souvent de ne pouvoir se mêler pleinement à leurs semblables, de partager leurs mêmes passions, d'avoir les mêmes modes et les mêmes centres d'intérêt. Parce que nous, parfois, parents, nous les élevons plutôt en vue du royaume que de ce monde-là. Et ça peut être difficile et compliqué pour eux d'accepter ce décalage. Souffrir avec Christ, c'est accepter cette réalité d'être dans l'autre sens. En plus, parfois, on ose annoncer notre espérance. On a envie de partager avec ceux que l'on aime notre foi, de les gagner à Jésus. Et on ne reçoit pas toujours des retours très chouettes. Veillons cependant à ne pas être une cymbale qui casse les oreilles, comme le dit l'apôtre Paul. C'est l'amour des autres qui doit nous pousser à témoigner auprès d'eux. Témoigner pour témoigner afin de se sentir bien face à Jésus, sans aimer l'autre, sans chercher à le rejoindre, n'est pas notre appel. Et j'entends parfois, de temps en temps, des chrétiens se sentir persécutés. Mais si on creuse un peu, ils sont peut-être aussi un peu casse-pieds. Être témoin de l'amour du Christ, ça sous-entend aimer. Témoin de l'amour du Christ, il y a amour. On ne peut pas être un témoin de l'amour du Christ casse-pieds. Et même pour ces casse-pieds, il y a une souffrance. Alors vous le comprenez, on est à contre-courant de façon inévitable et on souffre. Ayant dit ça, je reviens maintenant à notre première source d'espérance. Ce que j'ai dit, la vie éternelle, ce n'est pas un lot de compensation, ce n'est pas une indemnisation de notre souffrance. Alors, je relis un peu le passage quand même, parce que, en plus, il est trop bien. C'est Paul. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. La création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants. Car la création est tombée sous le pouvoir de forces qui ne mènent à rien. Non pas qu'elle l'ait voulu elle-même, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, il y a une espérance, c'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous savons en effet que maintenant la création entière gémit et souffre comme une femme qui accouche. Elle le fait en solidarité avec nous, car ce n'est pas seulement la création qui souffre. Nous qui avons déjà l'Esprit Saint comme première part des dons que Dieu a promis, nous gémissons aussi intérieurement en attendant que Dieu fasse de nous ses enfants et qu'il délivre nos corps de leurs souffrances. Car nous avons été sauvés, mais en espérance seulement. Si l'on voit ce que l'on espère, ce n'est plus de l'espérance. Qui donc espérerait encore ce qu'il voit ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Voilà. Paul, d'emblée, il dit que notre condition présente, il la compare à la vie éternelle et il dit « Les souffrances du temps présent ne sont rien lorsqu'on les compare à la gloire à venir. » Et là, on a envie de dire « Paul, t'es sérieux ? T'as vu ce qui se passe dans le monde quand même ?» Mais Paul n'est pas quelqu'un de naïf, il a vécu sous un empire colonisateur, l'empire romain. Il a vécu une vie de souffrance, il s'est fait battre, emprisonner, lapider, laissé pour mort, abandonné par toute sa communauté juive qui le connaissait depuis toujours, condamné même parfois par certains chrétiens. Il a fini décapité à Rome après un bon séjour en prison. La vie qu'il a menée en tant que chrétien avait vraiment connu son lot de souffrances et il les a affrontées sans reculer pour servir le Christ. Il n'est donc pas quelqu'un qui a vécu dans sa tour d'ivoire. Comment est-ce qu'il justifie une telle affirmation ? Alors, telle affirmation, c'est quoi ? C'est le monde à venir, c'est des milliers de fois mieux que ce qu'on peut vivre maintenant. C'est ça, en fait, son affirmation. Eh bien, il parle de la création à venir. Il dit, notre monde, là, il est soumis à des forces de néant. Des forces qui mènent les choses à la destruction. Et c'est vrai, notre monde est brisé. Qu'est-ce qui vous procure de la joie ? Voilà, imaginez-le. Voilà. Mais aujourd'hui, là, je vous parle, c'est en train d'être détruit. Ça va vers la destruction. Quoi que ce soit. Vos relations, vos capacités physiques, votre autonomie, la joie que vous avez dans l'artisanat de ceci, ou le bricolage de cela, ou l'expression, quoi que ce soit, trouvez-le, c'est en train d'être détruit. Par le temps, par la vieillesse, immanquablement, ça va vers moins. Puis à un moment, plus. Ce monde est brisé. C'est comme s'il ne pouvait pas retenir durablement ce qui est bon et beau. Surtout ce que nous, on fabrique. Il y a des choses qui durent plus longtemps que d'autres, hein. Il faut du temps avant qu'une montagne se transforme en galet. Les étoiles qui brillent depuis des milliers, millions d'années, et même elles vont mourir. Il n'y a rien, rien dans ce monde-là. Tout est voué à la destruction. Ok ? Bizarre ça. Et Paul dit que cette création, elle souffre avec nous. Elle souffre avec nous parce qu'elle aussi, elle a envie de glorifier Dieu comme nous avons envie de glorifier Dieu par notre existence, notre simple existence. On avait vu à l'étude biblique, ah ouais, est-ce qu'on va rendre un culte à Dieu dans la vie éternelle ? Si vous lisez dans le jardin d'Éden, Dieu ne dit pas, prenez votre temps, profitez, remplissez la création, et vous pensez quand même, une heure par jour, vous venez me rendre un culte, hein. Ça n'existe pas. Parce que l'existence même d'Adam et Ève était un culte permanent chanté à Dieu. Ils ne pouvaient pas vivre et faire quoi que ce soit sans être en train de glorifier Dieu de tout leur être. Voilà. Et quand Christ va revenir, ça sera ça aussi. Et la nature, la création, aspire à être renouvelée dans cette relation à son Créateur. Et alors, Paul dit, en communion avec nous, elle soupire comme une femme qui accouche après le retour du Christ. Ce n'est pas un hasard. Que Paul utilise cette image de la femme qui accouche, parce que les douleurs de l'enfantement, bien que extrêmes, elles mènent à la vie. Elles mènent au plus heureux des événements, c'est la venue au monde d'un enfant. Le travail de l'accouchement, c'est une souffrance pour la vie. Et cela nous dit quelque chose de puissant, avec lequel je vous rebats les oreilles depuis des années. La création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage. Et elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Je cite. Oui, la terre, cet univers, sera rendue à la liberté, elle sera délivrée du péché comme nous aussi. Même on peut dire plus clairement, c'est par notre délivrance à nous en tant qu'humanité qu'elle va accéder à sa liberté. Donc ce monde ne va pas être détruit. Mais c'est sur ce monde que nous passerons l'éternité, c'est ce que Paul est en train de nous dire. J'en reviens à ma première source d'espérance. Nous vivons nos vies dans nos conditions déchues. Et même pour les plus heureux d'entre nous, nous n'avons pas eu la vie, nous ne pouvons pas vivre la vie que nous idéalisons. Il y a des opportunités gâchées, il y a des relations brisées, il y a des conditions défavorables, il y a des oppositions, il y a des déceptions, il y a des pertes sèches qui ne peuvent pas être récupérées. D'accord ? Or, la foi chrétienne ne place pas en face de nous une compensation. Vous savez, les compagnies d'assurance, quand on a un accident, une perte de validité, des choses comme ça, ben, elle donne de l'argent en compensation. Voilà. Mais à combien d'argent on estime une jambe en moins ? Voilà. Voilà. Ce que nous aurons dans la vie éternelle n'est pas une compensation, mais la possibilité de vivre ce que nous n'avons jamais pu pleinement vivre maintenant. C'est pour cela que Paul parle de rédemption du monde. L'hindouisme nous dit que la vie après la mort sera une grande béatitude en nous fondant dans le grand tout cosmique, le Brahman. Le bouddhisme annonce que la vie après la mort, enfin c'est même pas une vie, c'est une dissolution totale de l'être dans le nirvana. L'islam offre une vie de délices éternelles où aucun plaisir ne sera refusé aux croyants. Là, on est vraiment dans la compensation, tu vois. Notre foi chrétienne parle d'une vie rendue. Vous ressuscitez. Ce monde sera restauré, nos corps seront restaurés, nos cœurs seront guéris. Libérés du mal, des traumatismes, des deuils, des trahisons, des blessures, purifiés de la mort, de la corruption, nous pourrons enfin, c'est ça le mot, nous pourrons enfin vivre. J'entends des voix qui me disent tout cela n'est pas très spirituel. Et Christ alors ? C'est le plus important quand même, d'être avec Christ, non ? Alors franchement, rencontrer Jésus pour moi sera un moment incroyable. Et je fantasme de le voir apparaître dans le ciel, sur les nuées, auréolé de gloire, à descendre pour soumettre définitivement le monde à son règne d'amour et tous les chrétiens du monde extatiques en train de crier « Ah !» Mais, malgré tout, dans le passage qui nous concerne, Paul n'en parle pas. Ou alors, je ne l'ai pas vu. Mais ce qu'il brandit sous notre nez pour nous fortifier, c'est l'héritage que nous partagerons avec Jésus-Christ. Et cet héritage, c'est le monde restauré. C'est notre vie rendue à la perfection. Perfection dans le sens délivré de tout mal. Alors si certains veulent être très spirituels et dire que la seule chose qui compte pour eux, c'est de vivre avec Christ, qu'importe si c'est sur terre, dans l'espace, dans la présence de Dieu, libre à vous. Mais Paul, qui est quand même un modèle, je trouve, parmi les disciples, une bonne représentation de ce que c'est que se consacrer complètement à Jésus, Paul qui avait une profonde compréhension de la foi, Paul qui nous dit dans un passage qu'il a été jusqu'au 7e ciel, c'est-à-dire qu'il a eu des révélations, qu'il est monté dans la présence divine, Paul qui a rencontré le Christ ressuscité, lui, Il renforce sa capacité à endurer la souffrance ici-bas par l'espérance d'une résurrection physique. Je vais revivre et retrouver la vie éternellement. Je crois qu'il est sage de considérer ce qu'il nous montre et de l'accueillir avec confiance et reconnaissance. Nous sommes des humains créés à l'image de Dieu, créés pour glorifier Dieu, créés pour remplir la création de la présence de Dieu. Voilà. Genèse 1 et 2. Tirés de la terre pour remplir la terre de la gloire de Dieu. Et en fait, cette mission, on n'a jamais pu la vivre. Jamais. Pourtant, c'est celle qui est au fond de nous, celle pour laquelle nous avons été créés, celle que nous désirons au fond de nous. D'autant plus que nous sommes des chrétiens avec l'Esprit de Dieu renouvelé. Et grâce à Dieu, c'est exactement ça que nous vivrons dans l'éternité. Lorsque notre Seigneur et Sauveur, notre grand frère, nous ressuscitera pour toujours à son retour. Alors jetez des ancres de foi dans le monde à venir. Remettez à cet avenir les projets que vous ne pourrez pas suivre aujourd'hui. Trouvez une consolation en gardant l'espérance que, un jour, vous pourrez vivre ce rêve que vous sacrifiez maintenant pour le Seigneur. Puisez dans la certitude de cette vie surabondante pour renoncer à certaines envies et vous offrir pleinement à ceux que vous aimez. Considérez que vous ne serez pas indemnisé pour vos efforts, mais qu'il vous sera redonné pleinement une vie entière, pour toujours. Que le Seigneur nous fortifie dans l'espérance de sa victoire. Amen.